Alors, un grand merci pour l'invitation à parler ici. Donc, comme Françoise l'a précisé, je remplace au pied levé Pierre Binetruy. L'exposé sera le mien et les erreurs seront les miennes aussi. Donc, je suis membre de l'Institut de physique théorique au CEA Saclay. Et effectivement, je travaille depuis presque une vingtaine d'années sur l'accélération de l'univers et la modification de la gravité, les différents problèmes que Françoise a mentionnés dans son exposé précédent. Donc l'énergie sombre est un problème de physicien, le titre m'était imposé, je vais essayer de vous présenter pourquoi on peut s'intéresser à l'énergie sombre sur le plan plutôt physique et non pas astronomique ou astrophysique. Et donc je me concentrerai essentiellement sur le problème de la constance cosmologique, qui est un problème d'ordre de grandeur pour l'énergie du vide, et aussi les différentes possibilités qu'on a imaginées depuis une vingtaine d'années pour essayer de résoudre ce problème qui est encore ouvert. Donc je vais couvrir des sujets qui ont déjà été mentionnés dans l'heure précédente, donc il y aura un certain chevauchement. Mais j'espère que la répétition ne sera pas inintéressante et que vous verrez les problèmes sous d'autres aspects. Donc commençons d'abord assez pédestrement. Donc, je suis théoricien, je ne vais pas avoir beaucoup de diagrammes, je vais avoir pas mal d'équations, certaines seront simples, certaines seront plus compliquées, mais en général je vais les commenter. Donc on va commencer par ce que je vais appeler l'équation de Réchaud-Dury, qui est l'équation d'accélération pour un univers dont la taille est petit a. Donc c'est une équation qui ressemble à l'équation de Newton. Le premier terme ici, c'est la composante newtonienne d'attraction. Et il y a une composante relativiste, 3P, qui vient corriger l'attraction simplement due à la matière. Alors en relativité et en cosmologie, on obtient cette équation en faisant trois hypothèses qui sont extrêmement importantes pour pouvoir comparer avec les données et qui étaient absolument suffisantes jusqu'en 1998. La première détection de l'accélération de l'expansion de l'univers. Donc on utilise en général la relativité générale, dont on vient de fêter le centenaire. Le principe cosmologique, c'est-à-dire que sur des échelles extrêmement grandes, on va supposer que l'univers est isotrope et homogène, ce qui va nous permettre de simplifier mathématiquement le traitement, et qui est un principe qu'on teste et qu'on doit tester par les observations. Et d'autre part, jusqu'à 1998, on avait simplement quatre types de matière. Donc la matière noire, les baryons, c'est-à-dire la matière ordinaire, la radiation et les neutrinos, donc comme en -450 pour Empédocle, mais d'autres types de matière que lui. Donc on ne va pas utiliser ceci, et on va essayer de comprendre quelle est la dynamique de l'univers simplement à partir de cette équation extrêmement simple. Alors, comme Françoise l'a précisé, l'approche phénoménologique, la première, serait de supposer que l'univers est rempli de fluides, de nombreux fluides, ayant une équation d'état W, c'est-à-dire que vous avez une relation entre la pression des nombres fluides, des quatre fluides, et leur densité d'énergie. Alors, il se trouve qu'en très très bonne approximation, l'équation d'état pour la matière, donc par exemple les baryons, la matière ordinaire, c'est zéro, donc un fluide sans pression, et c'est un tiers pour la radiation, pour les photons. Et si vous prenez directement l'équation précédente, mais évidemment, à cause du fait que tout ceci est positif, vous avez une accélération qui est négative. C'est-à-dire que sous l'effet de la gravité, la matière ne peut faire que décélérer l'expansion de l'univers. Donc l'univers aurait commencé dans le passé, comme le maître nous l'a appris, par un Big Bang. Et puis, de façon décélérée, l'expansion viendrait se ralentir et peut-être, dans un futur, retomber. Mais en fait, ce n'est pas ce qu'on a mesuré en 1998. On a mesuré exactement l'opposé, c'est-à-dire que dans le passé récent, l'accélération à double point devient positive depuis un redshift qui est à peu près égal à 1. Donc, que faire ? La première chose à faire, c'est de reprendre ces mêmes équations et d'essayer de voir ce qu'on peut faire avec ces équations pour obtenir une accélération positive dans le passé récent de l'univers. Alors pour ça, il suffit d'imaginer que dans le passé récent, depuis Z égale à 1, il existe un cinquième élément qu'on peut appeler quincessence, qu'on peut appeler énergie noire, énergie sombre, et qui est tel que son équation d'état est inférieure à moins un tiers. Alors c'est extrêmement facile de voir pourquoi. C'est parce que pour obtenir ici un signe positif, il suffit que cette quantité ρ plus 3p devienne négative, donc que l'équation d'état soit inférieure à moins un tiers. Ce qui ne correspond absolument à aucun fluide qu'on connaît en physique classique, mais qui pourrait très bien exister aux échelles cosmologiques. Et donc on peut se demander, est-il possible d'avoir un fluide qui va dominer simplement l'évolution de l'univers très tard, à partir d'un âge qui est la moitié de l'âge présent de l'univers, et qui pendant le grand passé de l'univers depuis le Big Bang ne jouerait pratiquement aucun rôle. Alors la première des façons d'engendrer cette accélération qui vient à l'esprit, et ça c'est une façon qui est assez naturelle et qui est confirmée. Alors je ne sais pas si vous voyez les diagrammes, mais c'est un diagramme que vous pouvez imaginer en fonction de la densité d'énergie et l'équation d'état, et vous avez une équation d'état qui, par les données les plus récentes, est contrainte à être de l'ordre de moins 1, donc en fait avec une composante qui est bien inférieure à moins 1 tiers. Donc une composante avec une énergie du vide qui serait une énergie telle que son équation d'état est égale à moins 1, ça correspond à ce qu'on connaissait depuis les années 20 à être l'énergie du vide. Et je vais vous raconter comment est-ce qu'on sait que l'énergie du vide peut avoir cette caractéristique et quels sont les problèmes que ça pose et comment est-ce qu'on peut éviter ces problèmes dans le reste de ces exposés. Donc regardons ça. Voilà. Alors pour revenir à... pour pouvoir vraiment avoir une description du problème et de ce que ça pourrait être, je vais revenir à une intégrale première, donc comme en mécanique classique, du mouvement. Donc je suis parti de l'équation de Réchaud-Dury, qui est une équation d'accélération du deuxième ordre, comme l'équation de Newton pour le mouvement d'une particule. Et on peut en écrire une en cosmologie avec le principe cosmologique. On peut en écrire une intégrale première qui s'écrit sous la forme suivante, qui est ce qu'on appelle la première équation de Friedmann, qui a été écrite par un physicien russe dans les années 20. Et qui correspond à l'évolution temporelle du taux de Hubble. C'est-à-dire le taux de Hubble, c'est la dérivée logarithmique de la taille de l'univers. Donc h carré est relié par la constante de Newton au contenu en matière de l'univers. Donc ρ, c'est la densité de matière. Et puis je vais rajouter quelque chose qui est ici, que j'ai appelé ρ lambda, qui est justement cette énergie du vide. Et il y a un terme qui est moins k sur a carré, qui est un terme de courbure. Alors, comme vous le savez toutes, vers 1917, Einstein avait introduit dans les équations de la relativité générale la constante cosmologique, qui vient en fait jouer le même rôle ici dans les équations de Friedmann que ce terme en ρ lambda. D'autre part, on sait que, du fait des équations de la relativité générale, que cette constante cosmologique se comporte comme un fluide avec une équation d'état moins 1. Le terme de courbure, lui, peut être positif, négatif, avec une normalisation qui vaut moins 1, 0 ou 1, suivant la structure de l'espace, qui est soit sphérique, spatialement plate ou hyperbolique. Et Einstein avait utilisé en fait ce genre d'argument pour réaliser le premier modèle de cosmologie, qui est le modèle d'Einstein, qui est un modèle statique, sphérique, avec une densité constante de matière, qui est donné ici par cette relation en fonction de la constante cosmologique, et qui est un rayon fini, qui est relié à la constante de Newton et à la densité de matière ou à la constante cosmologique. C'est l'univers statique d'Einstein, qui plus tard sera prouvé être instable. Mais en 1917, les gens ne le savaient pas. Et ça aurait pu être un très bon candidat pour la description de l'univers avec une taille qui dépend justement de cette quantité d'énergie, de constante cosmologique, qu'on peut aussi appeler énergie du vide. Vous verrez ça pourquoi dans un instant. Alors pourquoi on peut appeler ça l'énergie du vide? Mais en fait, il faut remonter à peu près à la même époque. Dès les années 1910, Nernst, celui du troisième principe de la thermodynamique, puis après, 10 ans plus tard, Pauli, donc celui du principe d'exclusion, se sont posé la question de quelle est cette énergie bizarre qui apparaît en mécanique quantique et qui est l'énergie du vide ou l'énergie de point zéro, que vous connaissez tous pour l'oscillateur harmonique, qui s'écrit 1 demi de h bar oméga. Alors moi, je suis théoricien, donc pour moi, h bar, ça vaut 1, parce que h bar vaut 1, c'est égal à 1. Et si vous avez beaucoup, beaucoup d'espèces, vous avez simplement une somme sur tous les modes de cette énergie du vide. Alors, dès les années 1920, Pauli savait, avec les premiers balbutiements de la théorie des champs, que pour pouvoir quantifier les électrons, pour pouvoir quantifier les différentes interactions fondamentales, en fait, on avait besoin de sommer, non pas une somme discrète, mais pour une particule, sommer sur toutes les impulsions que cette particule pouvait avoir. Donc là, vous avez la sommation tridimensionnelle des trois quarts. Et puis ici, vous avez la relation dispersion relativiste, oméga égale racine de k carré plus n carré, que j'ai pris pour l'électron. Évidemment, si vous regardez ça à la main, cette énergie qui est donc juste due aux fluctuations quantiques dues à la présence d'un électron dans le vide est infinie, puisque je n'ai aucune raison de ne pas mettre une borne ici à l'infini. Alors, dès les années donc, 1920, Pauli s'est posé cette question et s'est aperçu du fait qu'il fallait mettre ce qu'on appelle une coupure ultraviolette. Et ce qu'il a mis à la masse de l'électron, ça pouvait paraître absolument naturel parce que dans les années 20, on n'avait pas d'accélérateur qui montait à des énergies beaucoup plus hautes. On n'avait pas d'accélérateur, donc on n'avait pas du tout d'énergie qui montait plus haut que la masse de l'électron, qui, je vous rappelle, est égale à peu près à 1 MeV. Donc, on fait ce calcul et on trouve une énergie du vide qui vaut quelque chose qui est en masse de l'électron à la puissance 4. Toutes les densités d'énergie sont toujours des masses à la puissance 4. Dimensionnellement, quand on travaille en unité réduite, de h bar égale 1, c'est égal à 1. Et si on fait ce calcul et qu'on prend pour la masse de l'électron qui était connue à l'époque, et qu'on calcule cette densité d'énergie, et qu'on revient à l'expression précédente, pardon, ici, qu'on utilise ça pour calculer le rayon de l'univers d'Einstein, on s'aperçoit que le rayon de l'univers d'Einstein va être plus petit que la distance Terre-Lune. Donc quelque chose qui est complètement exclu physiquement. Et en fait, ça n'a pas causé un grand bruit. Les gens ont plus ou moins oublié ce fait pendant pratiquement 60 ans. Il a fallu que ça soit retrouvé dans les années 60 par le physicien russe Zeldovich, qui s'est rappelé qu'en cosmologie, l'énergie du vide pouvait jouer un rôle et avoir un effet sur la dynamique de l'univers. La raison pour laquelle ça a été supplanté, je pense que c'est du fait que, ici on a une photo de Lemaître avec Einstein, que dès 1927, on a su que l'univers n'était pas un univers statique. Et donc on a abandonné le modèle d'Einstein, et en abandonnant le modèle d'Einstein, on a oublié le problème du calcul de cette énergie du vide, en fait. On a oublié ceci, et on a mis très longtemps pour arriver à comprendre comment est-ce qu'on pouvait faire un calcul plus rigoureux de cette quantité-là, qui de toute façon doit être calculée, est importante physiquement et ne doit pas être oubliée si on veut faire un modèle de l'univers. Alors, il y a plusieurs remarques qu'on peut faire sur ce calcul. La première, c'est que ce calcul semble dépendre de la coupure ultraviolette. Alors, il n'y a absolument aucune raison pour moi d'avoir émis une coupure ultraviolette à la masse de l'électron. J'aurais pu mettre la masse du proton, qui était connue à l'époque aussi. J'aurais pu mettre d'autres masses, une énergie beaucoup plus importante. Donc c'est assez bizarre. On aurait pu aussi tenir en compte, même à l'époque, non pas simplement l'électron, mais aussi le proton qui était connu, et puis dès le début des années 30, le neutron. Donc on aurait pu sommer sur plusieurs contributions. Et puis surtout, si on avait connu, mais c'était beaucoup trop tôt, parce qu'on a connu la création des éléments après la guerre par Gamow et ses collaborateurs, on aurait pu savoir que ce calcul-là était telle qu'en fait toute la physique depuis la création des éléments jusqu'à maintenant aurait été complètement bouleversée et que donc si on a une énergie qui est de type de celle qu'on a calculée précédemment, on ne peut pas du tout décrire la physique de basse énergie depuis la création des éléments depuis la BBN. Donc c'est un problème qui aurait dû être complètement en premier dans tous les livres de cosmologie depuis les années 30, mais qui a été oublié jusqu'à à peu près une vingtaine d'années. Alors en fait, il a fallu très longtemps pour pouvoir avoir une description correcte de ce type de calcul. Donc pour ça, il a fallu passer par les années 50, et dans les années 50, les gens ont appris à faire plus de théorie des champs, de calculer ce qu'ils appellent la renormalisation en théorie des champs, et donc savoir manipuler des quantités qui sont en fait formellement infinies, mais qui physiquement doivent être considérées comme des quantités finies. Donc c'est un gros sujet en, en théorie des champs. Et à la fin des temps, voilà à quoi peut ressembler le résultat du calcul d'une densité d'énergie du vide. Il y a un premier terme qui est simplement mis à la main, qui est la constante cosmologique, comme Einstein aurait pu le faire. Chaque transition de phase dans l'univers, par exemple la transition électrofaible, dont on sait qu'elle existe puisqu'on observe des électrons massifs, donne lieu par un effet, disons, de chaleur latente à une contribution à l'énergie du vide. Et on a une généralisation ici du calcul que j'ai fait précédemment et qui est ici rigoureuse, une somme sur toutes les particules de spin J avec une contribution qui est à la puissance 4 de leur masse. Donc voilà, c'est l'énergie du vide. Et a priori, c'est cette énergie-là. Si vous connaissez toutes les masses de toutes les particules qui ont existé et qui existent dans l'univers, si vous connaissez toutes les transitions de phase qui ont existé et qui existeront dans l'univers, et si vous connaissez la valeur de la constante cosmologique qui peut exister dans les équations d'Einstein, voilà ce que vous devez mettre dans l'équation de Friedmann ici. Et par cette équation de Hubble, vous devez en déduire la dynamique de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à maintenant. Alors c'est un problème, comme je vous l'ai dit, parce que si jamais je prends ici simplement comme cette contribution ici, qui est la masse de l'électron, j'ai déjà un problème avec la BBN. Mais il se peut que tous ces termes en fait, viennent se compenser. Et en fait, c'est ça qui est apparu en 1998, parce que la mesure en fait, du taux d'expansion de l'univers qu'on a eu par les supernovae et puis les confirmations observationnelles depuis lors nous dit que la densité d'énergie à la puissance 1 quart, c'est-à-dire vraiment la densité d'énergie en termes d'électronvolts ou de gigaélectronvolts, est donnée par 2.4 milliélectronvolts, ce qui est extrêmement faible. À part peut-être la masse des neutrinos, il n'y a aucune échelle d'énergie en physique qui a une énergie de ce type. Toutes les énergies que vous connaissez, la masse des électrons, la masse des muons, la masse des protons, sont des énergies bien supérieures à cette échelle typique. Donc on peut répéter à ce moment-là ce que Rabi avait dit pour la découverte du muon en 1936. Qui a commandé ça? Donc on ne sait pas pourquoi. Est-ce que l'univers présent serait dominé par une énergie qui ressemble à une énergie du vide, avec une densité d'énergie si faible, quand toutes les énergies physiques que l'on connaît à partir des accélérateurs ou de la physique atomique sont à des échelles bien, bien plus grandes. Donc, ça paraît comme un ajustement fin, mais un ajustement fin de quoi? Alors, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on est obligé d'ajuster? Est-ce qu'il est possible de justifier une si petite échelle par rapport à toutes les échelles de la physique? On peut commencer par s'intéresser à un grand résultat prouvé par Weinberg il y a à peu près 30 ans, et qui donc s'appelle le théorème de Weinberg. Alors Weinberg, qui a eu le prix Nobel pour le modèle standard de la physique des particules, a montré un théorème, et donc ça c'est une petite preuve, mais vous n'êtes pas forcément obligé de regarder la preuve elle-même. Il s'est posé la question, et il a prouvé un théorème qu'on appelle un théorème sans issue en français, qui est la chose suivante: c'est est-ce qu'il est possible, en ayant une description par un Lagrangien, qui ici sera le plus simple possible que l'on peut prendre, c'est-à-dire simplement des champs scalaires, ça c'est leur énergie cinétique et leur énergie potentielle, est-ce qu'on peut montrer que ce système va naturellement tendre à avoir un état fondamental qui est un état avec une énergie qui serait nulle? Ça viendrait nous rasséréner et expliquer pourquoi peut-être on pourrait justifier un si petit nombre, parce qu'en faisant une petite brisure par rapport à ce résultat, on pourrait justifier un nombre qui soit suffisamment petit. Alors pour faire ça, en fait, Weinberg a utilisé le raisonnement suivant. Il ne veut pas du tout utiliser d'échelle d'énergie mise à la main dans son modèle. Donc je ne veux pas avoir une échelle qui est comme 2,4 milliélectronvolts dans mon modèle. Je veux avoir un modèle où il n'y a pas d'échelle. Si vous avez un modèle où il n'y a pas d'échelle, vous avez une symétrie qui apparaît, qui s'appelle l'invariance d'échelle. Et à ce moment-là, le vide, qui est l'état fondamental pour ce modèle, vérifie à la fois, c'est ce qu'on voudrait, une énergie du vide égale à zéro, et aussi, tous les champs devraient avoir une dérivée, donc il faut pour avoir un minimum du potentiel, la dérivée devrait être égale à 0. Sachant qu'on a, on a factorisé une dépendance en échelle qu'on appelle le dilaton. Et donc à ce moment-là, on n'avait pas n champs comme au départ, mais n-1 champs. Donc on se retrouve avec n contraintes pour n-1 champs. Et ça, ça vous dit que toutes les constantes qui existent dans ce modèle, donc qui sont ici ces constantes petit y ici, doivent satisfaire une relation. Donc pour pouvoir avoir un état fondamental dans ce modèle, qui est un état fondamental ne dépendant pas du temps et qui va avoir une énergie minimale, on doit imposer une relation entre les constantes de ce modèle. Alors c'est a priori pas un problème, sauf que on sait en théorie quantique des champs qu'il va y avoir renormalisation, et par renormalisation, ces échelles vont varier sous les variations dues aux corrections quantiques. Et donc on ne va pas pouvoir imposer que par l'effet des corrections quantiques, cette relation soit valable tout le temps. Okay. Ce qui fait que, en fait, la seule solution au problème, puisque la solution avec contrainte ne peut pas toujours être maintenue par les corrections quantiques, va être la solution où ce facteur d'échelle, le dilaton, on appelle ça le dilaton, doit s'annuler. Et en fait, donc, le seul vide qui va pouvoir exister dans cette théorie-là, c'est le seul vide où tous les champs vont venir être égaux à zéro. Alors ça pourrait être une solution tout à fait valable. Le problème est que si ça c'est votre modèle d'univers, donc ça, si ça c'est le modèle qui décrit l'état fondamental de l'univers, je sais que ces champs scalaires, par le mécanisme de Higgs, certains d'entre eux vont venir donner une masse à cet dernier fermion qui existe dans l'univers. Je sais que les électrons ont une masse, donc je ne peux pas avoir que des champs avec une masse égale à zéro. Donc pour ça, j'écris le couplage qui s'appelle le couplage de Yukawa entre ces champs scalaires et des champs fermioniques, donc c'est phi, psi, bar, psi, et la matrice de masse, donc la matrice de masse des fermions, comme les électrons, est proportionnelle à ce champ phi. Or, je viens de voir que l'état fondamental a un champ phi égal à zéro, et donc je ne peux pas avoir un état fondamental de l'univers qui réalise à la fois une configuration statique et des masses non nulles pour les particules. Comme on observe des fermions massifs dans l'univers, ça nous dit que je ne peux pas avoir les hypothèses qui me donnent un vide ajusté égal à zéro. Donc j'ai un problème. Donc je ne sais pas justifier à partir du modèle le plus simple et le plus générique qui décrit l'état fondamental de l'univers, une petite constante cosmologique, une petite valeur de l'énergie du vide, quelque chose qui aura une valeur très très proche de zéro. Alors en fait, je vais passer le reste de cet exposé à essayer de violer les hypothèses cachées de ce théorème. Parce que sinon, je peux arrêter mon exposé ici, puisqu'on ne sait rien faire, et dire que tout ce que je peux faire, c'est mesurer la valeur et n'avoir aucune description théorique de ce qu'on a mesuré. Donc ce théorème contient de façon cachée un grand nombre d'hypothèses, et je vais passer en revue les différentes hypothèses et comment essayer de les violer. Et chacune va conduire à un type de modèle, dont certains sont ceux que Françoise a présentés auparavant. Donc allons-y. Alors la première façon de violer les hypothèses du théorème de Weinberg est donc d'espérer avoir une compréhension de cette petite valeur de l'énergie du vide, c'est d'avoir une description de l'état fondamental de l'univers, non pas comme quelque chose qui serait statique, un petit peu comme dans le modèle statique d'univers d'Einstein, mais des configurations de champs qui vont être dynamiques et qui vont faire qu'il va y avoir un auto-ajustement dynamique avec peut-être la présence d'un attracteur à grand temps vers lequel l'univers va venir courir, et cet attracteur nous donnera une explication pour l'existence de cette petite valeur qui conduit à l'accélération de l'univers. On peut aussi imaginer qu'il existe une symétrie qui est telle qu'en fait, ce que j'ai marqué ici est faux. C'est-à-dire que même sous les corrections quantiques, la relation qui me permettait d'avoir des vides, donc des solutions pour ce champ phi qui était non trivial, est toujours vérifiée. Alors pour ça, il faut l'existence de symétrie. Et donc, par exemple, je serai amené à parler de supersymétrie. Donc la supersymétrie, c'est une façon d'avoir ces configurations statiques qui violent les hypothèses du théorème de Weinberg. J'ai aussi insisté sur le fait qu'ici, on est à quatre dimensions. Où est-ce que c'est apparu ? C'est apparu ici du fait que, en fait, vous avez quatre termes dans les champs scalaires ici. Mais il se pourrait que l'univers, comme en théorie des cordes, ait beaucoup plus que quatre dimensions. Donc ça va modifier le résultat de façon extrêmement importante. Et puis finalement, j'ai décrit tout ça par une théorie des champs qui est une théorie des champs tout à fait conventionnelle. Et il se pourrait que la description qui entraîne l'accélération de l'univers ne peut pas être décrite dans l'univers récent par une théorie des champs qui est celle qu'on utilise par exemple en physique des particules. Et notamment, il est possible qu'on ait besoin d'introduire une certaine violation soit de la localité, soit de la causalité. Pas locale, donc pas ici dans les accélérateurs ou pas au niveau des expériences, parce qu'on aurait certainement mesuré, mais au niveau global sur les grandes échelles. Donc, je vais passer en revue, dans le temps qui me reste, certains modèles de correspondant à ces quatre possibilités. Alors, le premier est le type de modèle que Françoise a présenté, qui sont les modèles de type pseudo-Goldstone, et qui donne un exemple de configuration de type quintessence ou énergie noire avec un champ qui va être dynamique. Alors simplement, je vais répéter ce qui a été dit auparavant. On suppose que l'univers est décrit par un champ phi et il y a une brisure de symétrie dans l'univers. Donc vous avez une symétrie par changement de phase qu'on appelle U1 qui est brisée par la valeur moyenne dans le vide pris par ce champ. Et la particule ou le champ qui est résiduel au fond du potentiel ici, qui est modélisé par ce champ petit phi dans l'exponentielle, va être ce qu'on appelle un boson de Goldstone. Alors si on choisit bien le modèle, et là il y a un ajustement fin et c'est extrêmement important, au fond du potentiel ici, l'énergie est zéro. Et c'est en général ce qu'on fait dans tous les modèles de quintessence. Il y a un moment, on choisit qu'au minimum d'un potentiel ou dans une certaine configuration, on prend que l'énergie est égal à zéro. Il n'y a pas du tout de justification pour ce fait. Ici, c'est juste un choix phénoménologique. Donc si on fait ce choix et qu'on imagine qu'on brise de façon extrêmement petite cette symétrie, par exemple en ajoutant un terme de ce type dans le Lagrangien avec une échelle mu à la puissance 4. Alors si parmi vous, il y a des physiciens des particules qui ont fait de l'interaction forte, par exemple, ça va vous rappeler la physique des pions et de la symétrie chirale. Donc on va briser par ce petit terme la symétrie U1. Et évidemment, quand on rajoute ce terme-là, ça va donner un potentiel pour le boson de Goldstone. Et le modèle qui va décrire la physique après brisure de symétrie, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle que j'ai dessinée ici, qui va avoir un minimum à l'origine, qui est égal à 0 ici, et qui va partir d'un terme ici avec mu puissance 4. Et ce qui va se passer dans ce type de modèle de type dégel, c'est que pendant très très longtemps, jusqu'au passé récent de l'univers, le champ va rester bloqué par la friction de Hubble en haut du potentiel. Il va se mettre à courir vers le bas uniquement dans le passé récent. Donc vous allez avoir un effet dynamique, donc le champ qui roule et qui dans le futur se mettra à osciller ici. Donc ce n'est pas tout à fait un modèle de constante osmologique ou d'énergie du vide égale à une constante, puisque vous avez un champ qui bouge. Mais l'échelle d'énergie que vous avez mise ici à la main va devoir être telle qu'elle est de l'ordre de grandeur de celle que vous avez trouvée expérimentalement. Donc en fait, pour pouvoir faire marcher ces modèles, vous êtes obligé quand même de faire de l'ajustement fin. La raison est la suivante, c'est que pour que ces modèles marchent, il faut que l'échelle de brisure de symétrie soit à la masse de Planck, c'est-à-dire à 10 puissance 18 GeV, et que le petit terme de brisure soit, lui, à cette échelle extrêmement basse, qui est 2^10-3 électronvolts. Et dans ces modèles-là, en fait, vous n'avez rien intrinsèquement résolu. Tout ce que vous avez fait, c'est une description dynamique du phénomène. Donc vous avez gagné simplement le fait que si les observations futures nous apprennent que l'accélération est due à un phénomène dynamique, ce modèle pourrait en être une description. Par contre, pour ce qui est de la valeur que j'ai mise ici à l'origine de l'énergie, j'aurais pu la mettre ici ou j'aurais pu la mettre là, je n'en ai aucune explication. Donc je n'ai pas vraiment d'explication du fait de pourquoi est-ce que la valeur que je mets ici pour l'énergie qui va engendrer l'accélération, est-ce qu'elle est. Je la mets à la main, donc j'ai un ajustement fin. Je n'ai pas résolu le problème de la constance cosmologique ou de l'accélération de l'univers. J'ai simplement fait une description phénoménologique du phénomène qui pourrait être utile dans les années futures si on a une description observationnelle dynamique de l'univers. On a un autre problème avec ces modèles, et ça a été mentionné dans l'heure précédente, qui est que la masse de ces particules est extrêmement faible. Donc le champ, chaque champ est associé en théorie des champs à une particule, va avoir une masse qui est de l'ordre du taux de Hubble maintenant, qui est de l'ordre de 10^42 gigaélectronvolts. Ce qui correspond pour l'inverse de la masse à une portée qui est de la taille de l'horizon, donc de l'univers observable. Et si ce champ couplé à la matière, ça nous entraînerait des conséquences extrêmement importantes pour la possibilité d'avoir une cinquième force ou des violations de la gravité dans le système solaire ou à des échelles plus importantes. Or, ça a été contraint et c'est contraint régulièrement de façon extrêmement importante. Donc, on essaye d'éviter. On a parlé précédemment du mécanisme de caméléon, c'est un moyen d'éviter ceci, mais ces modèles, en fait, intrinsèquement, sont découplés pratiquement complètement de la matière, parce que ici vous avez un couplage qui est ce qu'on appelle un couplage dérivatif par rapport à un couplage linéaire en phi qui vous donnerait lieu à des effets extrêmement importants dans le système solaire. Donc ces modèles-là ne nous posent pas tellement de problèmes pour ce qui est des tests d'existence de cinquième force. Mais ils ne sont pas des modèles extrêmement intéressants du point de vue du problème de l'énergie du vide ou de pourquoi est-ce qu'on a ajusté l'énergie du vide à cette valeur. On fait simplement que les utiliser pour une description phénoménologique du phénomène. OK. Donc passons à autre chose. Donc une autre façon de faire, et qui pendant longtemps paraissait extrêmement intéressante, c'est la supersymétrie. Alors là, ça devient un peu plus kabbalistique en termes d'équations. Mais ça fait la joie des théoriciens, parce que je peux mettre des alphas avec des petits points, des barres, enfin des tas de choses qui font le plaisir du théoricien au quotidien. Et donc la supersymétrie, en fait, c'est la racine carrée d'un déplacement. Si vous vous rappelez votre mécanique quantique, il y a un opérateur qui est l'opérateur de translation, et en fait c'est la généralisation ici en termes de relativité. Et donc le carré d'une transformation supersymétrique, c'est une translation. Et un vide supersymétrique est tel que simplement le générateur, c'est-à-dire ce qui engendre la supersymétrie, annihile le vide. Et immédiatement, quand vous identifiez le Hamiltonien avec la partie zéro des translations, c'est-à-dire les translations dans le temps, vous trouvez qu'un vide supersymétrique est tel que son énergie est toujours égale à zéro. Donc en supersymétrie globale et exacte, le vide supersymétrique nous résoudrait le problème de la constance cosmologique, du fait qu'on a une énergie du vide qui est extrêmement petite. Et comme je vous le rappelle, cette symétrie passe à travers le théorème de Weinberg du fait de l'existence de cette symétrie et des relations qu'on peut avoir entre les couplages dans la petite preuve que j'ai donnée tout à l'heure. Mais quel est le problème? En fait, le problème, c'est que pendant longtemps, on a rêvé de la supersymétrie, mais il se trouve qu'aux accélérateurs, pour l'instant, on n'a jamais rien vu. Donc la brisure de la supersymétrie doit être brisée et l'échelle d'énergie à laquelle elle doit être brisée doit être supérieure à l'échelle à laquelle on teste dans les accélérateurs. Donc plus grande que, par exemple, l'échelle du boson Z. Il y a un autre effet qui est extrêmement important, c'est que là, je vous ai parlé de supersymétrie globale. Or, pour tenir en compte de la gravité, on est obligé de tenir en compte non pas simplement de la supersymétrie, mais ce qu'on appelle la supergravité. C'est-à-dire qu'on se permet non pas d'avoir des translations dans l'espace et dans le temps globalement sur tout l'univers, mais simplement localement, quand on peut le faire en relativité. Donc pour faire ceci, on est obligé de décrire ce qui s'appelle la supergravité. Et en supergravité, le vide n'est plus garanti d'avoir une énergie nulle. On peut s'arranger, et pendant des décennies, les gens l'ont fait, et on a des équations de ce type-là, c'est-à-dire qu'on s'arrange entre les paramètres d'ordre de brisure de la supergravité et la masse du gravitino pour avoir, grosso modo, une annulation complète de l'énergie du vide, mais on n'a pas de justification de ce fait-là. Et même si on le fait, le fait que aux accélérateurs, on sache que la supersymétrie est brisée à une échelle plus grande que les 7 du boson Z, et telle que les corrections quantiques venant des effets de différence de masse entre les particules et leurs superpartenaires est forcément plus grand que la masse de brisure à la puissance 4. Et donc, puisque ça, c'est à peu près 100 GeV, c'est énorme. Et donc, on n'a pas du tout d'approche par la supersymétrie ou la supergravité brisée du problème de la petitesse de l'énergie du vide. Donc, c'est une piste qui aurait pu être extrêmement intéressante, qui est peut-être encore à creuser, mais qui n'est pas la panacée. Alors, passons à autre chose. Donc, là, le troisième type de violation du théorème de Weinberg, c'est la possibilité de décrire l'univers, non pas comme un univers à quatre dimensions, mais un univers qui posséderait une partie avec plus que quatre dimensions. Donc typiquement, vous avez entendu parler qu'à l'origine, la corde bosonique avait 26 dimensions, la corde supersymétrique à 10 dimensions. Ici, on va simplement faire des modèles à 6 dimensions. Donc dans les modèles à 6 dimensions, on peut imaginer que les deux dimensions supplémentaires sont de type sphérique, donc sont comme une sphère. Donc on aurait notre univers à 4 dimensions, et qui aurait une dimension en plus de type sphérique autour de lui, et que sa topologie en fait peut être modifiée par l'existence de branes. Alors nous, on serait une de ces branes, c'est-à-dire un hyperplan à 4 dimensions dans l'espace à 6 dimensions, si vous arrivez à voir ceci. Alors vous pouvez le voir en regardant ce ballon de rugby. En fait, nous, on se placerait soit au pôle nord, soit au pôle sud. Et si vous avez l'imagination, on serait en fait un hyperplan qui serait ici, dans cet espace à dimension supplémentaire. Donc on vivrait soit au pôle sud, soit au pôle nord de cet espace supplémentaire. OK. Donc si on décrit ces modèles-là, on va écrire la théorie qui décrit la physique de ces modèles en utilisant la gravité à 6 dimensions. Donc ça, c'est le terme de Einstein-Hilbert à 6 dimensions. La consonne Newton à 6 dimensions. Et puisqu'on a mis notre univers ici, qui a une tension ou une énergie du vide, que j'appelle ici T6, qui intervient comme ceci, et qui ne dépend que du volume d'univers à 4 dimensions, alors qu'ici, on fait intervenir le volume d'univers à 6 dimensions. Si on utilise ceci et les équations du mouvement, c'est-à-dire les équations d'Einstein venant de ceci, on se retrouve avec, en fait, le fait que l'énergie de ces configurations est égale à 0. OK. On a une configuration d'énergie égale à 0, et en fait, on a vraiment un ballon de rugby dans les dimensions supplémentaires, parce qu'en fait, on a du fait de l'existence de la tension, donc de l'énergie du vide sur notre univers qui vit au pôle nord ou au pôle sud, on a en fait ici un dépôt topologique, ça ressemble à un cône comme dans un ballon de rugby. Ce n'est pas quelque chose qui a deux pi quand vous faites le tour, mais vous avez un angle de défaut qui est proportionnel à la tension T6. Donc ça, c'est une très très belle façon, six-dimensionnelle, d'obtenir une configuration qui paraît sympathique avec une énergie égale à zéro. Alors, est-ce qu'on peut faire de l'énergie noire, ou est-ce qu'on peut justifier qu'on peut avoir dans ces configurations quelque chose qui est non pas égal à zéro, mais quelque chose qui est tout petit et qui viendrait corriger ce petit nombre? Alors en fait, il y a eu une grande activité dans le milieu des années 2000 pour essayer de trouver des modèles comme ceci. Et ils existent, ils ne sont pas complètement fermés, donc on n'en a pas une description complète, mais c'est une bonne piste. Alors pour ça, je suis obligé de vous rappeler quelques faits sur ce qu'on appelle les compactifications, c'est-à-dire que imaginez que vous êtes cette petite fourmi sur cette brindille, et si les dimensions supplémentaires qui sont ici sont suffisamment petites, vous ne voyez absolument rien. Tout ce que vous voyez, c'est la physique quadridimensionnelle le long de votre direction. Et donc on peut relier la constante de Newton, donc la gravité à 4 dimensions, avec la constante de Newton à 6 dimensions, par l'intermédiaire du volume L2 de la sphère supplémentaire. Et il se trouve que les tests de la gravité ne sont connus que jusqu'à des tailles de 1 mm. Donc en fait, rien n'empêche que les dimensions supplémentaires soient à peu près de l'ordre du millimètre. Et si vous prenez pour dimension de ces dimensions supplémentaires 1 mm, le calcul de l'énergie du vide venant des fluctuations quantiques dans les dimensions supplémentaires va vous donner exactement L à la puissance moins 4. Et 1 mm, c'est à peu près le milliélectronvolt. Donc dans ces modèles-là, de façon un peu fortuite, on peut justifier par les fluctuations quantiques dans la dimension supplémentaire une petite valeur de rho lambda qui pourrait être identifiée avec ce qui a été mesuré en 1998. Alors, la question que vous devez immédiatement vous poser quand vous êtes théoricien, c'est qu'est-ce qui a commandé le fait que la dimension supplémentaire ait une taille de 1 mm ? Et en fait, on n'en sait rien. Donc, on n'a fait que reculer pour mieux sauter. Donc, on a une approche du problème de l'énergie du vide, moyennant le fait qu'on arrive à résoudre le problème qui s'appelle la stabilisation des modules pour ces modèles, c'est-à-dire qu'on arrive à calculer et justifier le fait que ce L soit de l'ordre du millimètre. Si un jour on savait le faire dans un modèle absolument concret, précis, dont on connaît toutes les équations, on pourrait peut-être dire qu'on sait calculer l'énergie du vide qui engendre l'accélération de l'univers. Mais ce n'est pas le cas encore pour l'instant. Alors, dans le dernier des modèles que je vais présenter, ce sont des modèles qui sont encore plus bizarres et qui vraiment s'inspirent de la preuve du théorème de Weinberg que j'ai vaguement esquissé et qui vont mettre vraiment l'accent sur le fait que dans cette preuve, on a utilisé vraiment toute la machinerie de la théorie des champs. Et notamment le fait que la théorie des champs se veut être causale et locale. Et que s'il existait une violation globale de la causalité ou de la localité, il se peut qu'on pourrait trouver une explication à la petitesse de la valeur de l'énergie du vide. Alors pour ça, je vais détailler un petit peu des modèles qui sont assez récents, qui ont moins de 5 ans. Et pour ça, comme d'habitude, je vais écrire l'action qui décrit le modèle. Donc ça, c'est l'action, et à l'intérieur, c'est le Lagrangien, qui contient plusieurs termes. Donc ça, c'est simplement en fait ce que j'avais écrit tout à l'heure pour la preuve du théorème de Weinberg, mais de façon déguisée. Donc le premier terme, c'est le terme de Einstein-Hilbert, qui décrit la gravitation à 4 dimensions. Le dernier terme, c'est un terme d'énergie du vide, constante cosmologique, celui que l'on voudrait qu'il n'ait aucun effet s'il est trop grand sur la dynamique à grand temps de l'univers, mais uniquement un petit effet à grand temps de l'ordre du milliélectronvolt. Et ça, c'est le couplage à la matière. Ça, c'est le Lagrangien du modèle standard, où les champs psi, les fermions seraient les fermions du modèle standard, qui couplent à la métrique qui apparaît dans le terme de Einstein-Hilbert. Et j'ai rajouté ici, exprès, ce terme de dilaton que j'ai mentionné en passant tout à l'heure dans la preuve de Weinberg, qui est en fait un champ dans ces modèles-là qui ne va pas être un champ local. Je vais mettre directement dans ce Lagrangien que le dilaton est un champ global qui est constant à travers tout l'univers. Alors que si j'écrivais un Lagrangien habituel pour décrire la physique ici, je mettrais pour lambda, pour les deux lambda, des champs locaux, donc avec dépendance en l'espace et en le temps. Mais ici, je vais simplement prendre un terme qui est une constante dans l'espace et dans le temps. Ok, donc si je fais rien, comme dans la preuve du théorème de Weinberg, la masse des particules va être proportionnelle à ce lambda. Ce lambda va se stabiliser à l'origine, à lambda égale 0. Et donc la masse des particules va être égale à 0. Je retrouve le même problème que dans le théorème de Weinberg. Cette description ne peut pas me donner une description de l'univers comme on le connaît. Donc là, je vais utiliser un ingrédient supplémentaire. Donc je vais utiliser l'ingrédient supplémentaire qui est cette violation globale de la localité. Et donc je vais rajouter quelque chose qu'on ne ferait jamais en théorie des champs. Je vais rajouter à mon action une fonction qui n'est pas une intégrale. Ici, vous voyez, en théorie des champs, j'utilise toujours des intégrales sur tout l'espace d'univers, ici. Je vais rajouter simplement quelque chose qui est une fonction globale de ce champ lambda d'énergie du vide et de ce champ lambda de dilaton et qui ne dépend pas du tout de l'espace. Simplement, c'est une constante. Je vais simplement la prendre dans la pratique, c'est très peu important. Je vais la prendre simplement impair avec une valeur à l'origine qui vaut 0. Et quand vous écrivez les équations du champ, donc les équations d'Einstein et les équations de Klein-Gordon venant de l'action précédente, vous trouvez la contrainte suivante. C'est-à-dire que le volume d'espace-temps doit être relié à la dérivée première par rapport à son argument de cette fonction sigma. Alors évidemment, si le volume d'un espace-temps est infini, vous retrouvez que lambda va avoir tendance à vouloir tendre vers zéro pour faire exploser ce deuxième membre. Donc pour avoir un lambda non nul, et donc pouvoir faire de la physique au-delà de Weinberg, je vais être simplement obligé de supposer que l'espace-temps est fini à la fois spatialement et temporellement. Alors c'est un peu plus difficile à accepter temporellement, puisque ça veut dire qu'à la fois dans le passé, mais dans le futur, on doit avoir un Big Bang et un Big Crunch. Donc, mais si je suppose que ceci, à ce moment-là, cette équation va fixer grosso modo la barre de lambda, et je peux continuer à faire de la physique. Je ne suis pas obligé d'avoir lambda égale à zéro. Alors, la physique que je fais à partir de ça, c'est une équation que je n'ai jamais écrite pour l'instant, mais qui est sous-jacente à tous les modèles que j'ai présentés jusqu'à présent. Ce sont les équations d'Einstein. Donc ça, c'est les équations d'Einstein pour le modèle que j'ai écrit précédemment. Donc à gauche, c'est ce qu'on appelle le tenseur d'Einstein, qui dépend des courbures de Ricci, du tenseur de Ricci. Vous reconnaissez ici la valeur de la constante de Newton. Et ça, c'est le tenseur d'énergie-impulsion de la matière. Donc ça généralise la pression, la densité, et aussi les pressions non axiales de la matière. Vous avez un autre terme qui apparaît sous forme de constante cosmologique, parce que dans les équations d'Einstein, c'est ce genre de terme qui apparaît pour la constante cosmologique, donc qui est identifié à ceci, en fait. Et j'ai mis des parenthèses dans ce terme, parce qu'en fait, ce que j'ai mis comme valeur ici, c'est la moyenne de t sur tout l'espace-temps, c'est-à-dire l'intégrale racine moins gt sur racine moins g. OK. Donc c'est un peu bizarre, et donc vous voyez ici exactement là où intervient la violation de la causalité, c'est-à-dire que la valeur de la constante cosmologique, qui est reliée à ce t sur 4 ici, nécessite de connaître à la fois le passé et le futur, et toutes les distances dans l'univers pour pouvoir calculer quelle est cette moyenne. Donc vous avez une violation globale de la causalité, dans le sens où ce qui apparaît dans les équations locales d'Einstein, qui donne la dynamique locale de l'univers, c'est une quantité globalement définie sur toute la taille de l'univers. Okay. Alors ça, c'est un prix à payer pour avoir le très très beau résultat qui est ici un peu crypté, mais que je vais essayer de décrypter, qui est que si je prends pour T mu nu, donc le tenseur d'énergie-impulsion, de toutes les espèces de l'univers, quelque chose que je sépare en matière plus une énergie du vide, il se trouve que la structure de cette équation-là fait que l'équation d'Einstein ne fait pas intervenir l'équation de l'énergie du vide. Donc en fait, l'énergie du vide découple, dégravite et n'a aucune influence sur la dynamique de l'univers. Donc on n'a pas de compensation vraiment de la constante cosmologique ou de l'énergie du vide. On a simplement que par cette violation de la causalité, l'énergie du vide n'intervient pas dans les équations locales d'Einstein. Et ces équations d'Einstein locales ne dépendent que de la densité de matière, donc la densité baryonique, et cette moyenne spatiale et temporelle du tenseur d'énergie-impulsion de la matière. OK. Donc, j'ai résolu par cette violation de la causalité une partie du problème de la constante cosmologique ou de l'énergie du vide. J'ai réussi à faire que l'énergie du vide ne gravite pas, qui est le problème principal. Pourquoi est-ce que l'énergie du vide graviterait? Dans ces modèles ici, il n'y a aucun effet de gravitation. Par contre, je n'ai pas d'explication de la valeur 2.4 milliélectronvolts qui m'est nécessaire pour engendrer l'accélération de l'univers dans le passé récent. Alors pour faire ça, en fait, il faut utiliser ce résultat. C'est qu'en fait, il faut pouvoir calculer cette valeur spatiale moyennée sur tout l'univers pour essayer de voir si c'est possible. Et là, évidemment, non, c'est ce que j'ai répété ici. Donc, ce qu'on observerait, donc les 2.4 milliélectronvolts, c'est cette moyenne. Et pour le faire, en fait, on peut inventer encore des modèles de champs scalaires. Donc, on est obligé de repasser avec des champs, comme ce modèle avec un potentiel décroissant linéairement, qui est tel qu'au début de l'univers, ce champ va prendre une valeur grande, va rouler le long de son potentiel, jusqu'à ce que le potentiel devienne négatif. Quand le potentiel est négatif, les équations de Friedmann n'aiment pas ça, l'univers finit en Big Crunch, Et donc vous avez réalisation de ce scénario et la valeur ici de 2,4 millielectronvolts nous donne simplement la valeur du champ phi pendant la plus grande partie de l'évolution de l'univers. Donc des modèles un petit peu exotiques ont été proposés donc, pour éviter les hypothèses du théorème de Weinberg, le dernier étant celui-ci. Alors je vais juste, dans les 10 minutes qui restent, faire un saut pour revenir après à un autre aspect du théorème de Weinberg, et je vais parler essentiellement de ce qui sera le sujet des exposés de la semaine prochaine, et de la gravitation et de sa modification. Pour l'instant, j'ai parlé uniquement d'énergie du vide, ou de modèles d'énergie noire, de choses qui étaient des composantes de champ qui venaient changer la dynamique de l'univers. Mais il se pourrait que la dynamique de l'univers soit modifiée non pas par son contenu matériel, mais simplement intrinsèquement par le fait que la gravité n'est pas décrite par sa description einsteinienne. Alors je vais simplement, parce que c'est le sujet de la semaine prochaine, je vais simplement me présenter les obstacles au modèle le plus simple qui a été écrit dans les années 30, en 1939, par Firth et Pauli, qui est la gravité massive. Donc pour ça, je suis obligé de faire un petit détour et de revenir par des choses assez fondamentales en relativité. Donc la relativité générale décrit les fluctuations de l'espace-temps. Et si on fait ça autour de la métrique de Minkowski, qui décrit la relativité restreinte, on trouve pour H menu, ces petites perturbations, le graviton, qui est une particule ou un champ associé à ces particules de spin 2. Et son équation du mouvement est une équation typiquement d'équation des ondes, c'est-à-dire que vous avez un d'Alembertien d'une quantité qui est comme H menu, qui est égal à au tenseur d'énergie-impulsion, et quand vous résolvez ceci en mode de Fourier, vous trouvez que H menu répond à la matière par le couplage de Newton, et si vous avez fait de la physique des particules, c'est un propagateur en P carré, parce que le graviton est une particule sans masse. Alors si maintenant vous essayez de modifier la gravité et de le faire de la façon la plus simple, vous avez par exemple la possibilité de rajouter un terme de masse au graviton qui est ici sans masse. Et donc, c'est ce que Pauli et Firth ont essayé de faire dans les années 30, donc en 39. Ils ont rajouté en termes du graviton ce terme de quadratique. Donc, ce terme de Firth-Pauli fait intervenir le graviton au carré, comme tout terme de masse en théorie des champs. Et si maintenant vous faites le calcul de la réponse à une perturbation matérielle du graviton, vous retrouvez le même résultat, c'est-à-dire un terme proportionnel à la constante de Newton. Vous retrouvez un propagateur qui n'est plus en p carré pour une particule qui se propage et qui est sans masse, mais en p carré plus m carré avec m carré qui est la masse du graviton. Et bizarrement, vous trouvez que la structure tensorielle qui est proportionnelle ici au tenseur d'énergie-impulsion commence en t menu, mais prend un terme trace de t sur 3, alors que pour un graviton sans masse, vous aviez trace de t sur 2. Et quoi que vous fassiez, et c'est la discontinuité VdVz, si vous faites tendre la masse du graviton vers zéro pour retrouver un modèle avec un graviton sans masse, ce tiers ne tendra jamais vers le demi, et donc vous avez impossibilité de retrouver la relativité générale en prenant la limite, qui est la limite de la gravité massive avec une masse tendant vers zéro. Donc la limite n'est pas indéfinie. Et alors ça, c'est extrêmement important et ça a donné lieu à de développements théoriques qui sont encore en train d'être faits. Et ça vient du fait qu'un graviton massif possède 5 polarisations, comme un photon massif possède 3 polarisations par rapport aux 2 pour un photon sans masse. Le graviton a 2 polarisations quand il est sans masse, il en a 5 quand il est massif, et il y a toujours une polarisation scalaire. Donc en fait, quand vous faites, et vous le verrez certainement la semaine prochaine, quand vous faites de la modification de la gravité, vous allez toujours voir apparaître d'une façon ou d'une autre un champ scalaire. Et ça vient de cette décomposition en termes de polarisation pour un graviton. Et ce qui se passe, c'est la chose suivante, c'est le mécanisme de Van Stein. c'est le fait que les termes non linéaires que je n'ai pas écrits, parce que pour l'instant j'ai été à l'ordre quadratique, mais si je rajoute des termes cubiques et des termes quartiques, il se passe la chose suivante. Vous avez un rayon qui est le rayon de Weinstein, qui dépend de la masse d'un objet, qui est tel que le potentiel, donc le champ scalaire supplémentaire, à l'intérieur de ce rayon devient grand, et de telle façon que la force qui est engendrée par ce champ scalaire est réduite. Elle est réduite, et donc si vous réduisez la force, ce qui venait contribuer à ce tiers, donc qui était la contribution venant du champ scalaire, de la cinquième polarisation du graviton, disparaît à l'intérieur de ce rayon, et en fait vous retrouvez la contribution venant simplement de la relativité générale. Donc ça c'est ce qu'on appelle les mécanismes d'écrantage, et ça c'est le mécanisme de Weinstein. À l'intérieur de ce rayon de Weinstein, qui peut être extrêmement grand pour le Soleil par exemple, vous retrouvez à l'intérieur du rayon de Weinstein la relativité générale. Ok. Alors il y a un problème, c'est que vous retrouvez la relativité générale, mais vous avez aussi un problème de fantôme. Alors des fantômes, en théorie des champs, ce sont des particules d'énergie cinétique négative. Donc ce modèle a été abandonné à la fin des années 30 parce que les termes non linéaires, ou quand vous êtes de la cosmologie, quand vous êtes en espace-temps qui n'est pas simplement un espace-temps plat, vous avez des termes de fantômes, donc des particules d'énergie cinétique négative qui apparaissent. Alors c'est une grande activité dans les 10 dernières années qui est la construction de modèles de type théorie des champs comme je l'ai présenté aujourd'hui, qui sont tels que vous avez des termes très très non linéaires, mais qui quand même n'ont pas de fantômes. Okay. Ce qui n'était pas le cas du modèle initial de Fiertz et Pauli. Et pour faire ça, en fait, on utilise un théorème d'Ostrodrasky, donc l'Ostrodrasky de Green-Ostrodrasky, celui que vous apprenez en classe préparatoire, donc l'Ostrodrasky du 19e siècle, et qui dit que généralement, quand vous avez un Lagrangien qui dépend de l'accélération et des dérivés de l'accélération des dérivés multiples de l'accélération, et non pas simplement de la vitesse et de la position, vous avez toujours l'apparition de fantômes. Et donc, pour pouvoir construire des modèles de gravité massifs qui n'ont pas de fantômes, il faut pouvoir passer à travers les trous de ce théorème. Et je pense que la semaine prochaine, c'est ce qu'on vous racontera. Et donc, maintenant, je vais finir sur ce transparent, qui est que je reviens à une des façons de violer le théorème de Weinberg, qui était de faire de l'énergie noire avec des théories qui sont avec un mécanisme d'auto-ajustement, c'est-à-dire en fait un mécanisme où il existe un attracteur à grand temps vers lequel la dynamique de l'univers va tendre. Et pour faire ceci, les modèles les plus simples et qui n'ont pas de fantômes sont des modèles de type Horndeski, qui sont des modèles assez récents, qui ont été exhibés dans les années 70 et redécouverts il y a moins de 10 ans. Et dans ces modèles-là, on peut réaliser l'accélération de l'univers avec auto-ajustement, donc avec attracteur à grand temps, qui nous explique l'accélération de l'univers dans ces modèles sans fantômes. Le problème est que, ici, je vous ai écrit le type de Lagrangien en cosmologie que vous utilisez, et si vous y avez arrivé à lire, vous avez des Lagrangiens qui sont des puissances inverses de l'énergie cinétique, par exemple, du champ. Donc vous pouvez encore répéter la même question, c'est d'où viennent ces modèles. Alors ces modèles font évidemment ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que si vous arrivez à voir la figure, vous avez évidemment une équation d'état qui passe proche de moins 1 dans le passé récent et qui vient faire toutes les époques, la matière, la radiation auparavant. Donc ça ne détruit pas la physique bien connue, mais le prix à payer pour avoir ces modèles, c'est d'utiliser ces modèles de Horndeski qui n'ont pas de fantômes avec des Lagrangiens absolument abominables. Donc voilà à peu près où est-ce qu'on en est. Donc on a des descriptions diverses et bigarrées du problème de la constante cosmologique et on essaye de trouver des descriptions qui sont plus ou moins justifiées en faisant une violation du théorème de Weinberg. Je vous ai présenté quelques façons de le faire. Donc pour répondre à la question, en fait, est-ce que c'est un problème l'accélération de l'univers pour les physiciens? En fait, c'est un problème merveilleux. Parce qu'on peut faire des tas de choses et on n'a pas de réponse. Donc on est entièrement dans une période d'expectative. Et on peut construire, on a nombreux obstacles, comme le théorème de Weinberg, mais on a nombreuses pistes, les dimensions supplémentaires, la violation de causalité, des modèles auto-ajustés de type Ordensky. Et pour finir sur une touche un peu plus expérimentale que Françoise a déjà présentée, on peut aussi faire des tests, comme ça a été fait à Berkeley, expérimentaux du couplage à la matière de ces champs, et avoir des mesures de la déviation, par exemple, d'une particule de césium passant dans le champ d'une boule d'aluminium qui est contrainte à être plus petite que 10-6 fois l'accélération petit g de la Terre. Donc on peut aussi, à travers ces expériences, essayer d'avoir des informations complémentaires à la cosmologie sur soit des modifications de la gravité, soit des champs scalaires, soit les deux mélangés. Je vous remercie.